Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui n'a pas du tout peur d'aller à la recherche de l'épanouissement, quitte à le trouver dans un nouveau mode de vie. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Yousra Kzouini, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Yousra?
Ça va très très bien et merci à vous de m'avoir accueilli.
C'est un plaisir.
C'est un grand plaisir.
Erbechelik, plaisir partagé. Alors, justement, une femme d'aujourd'hui qui s'assume complètement au point de vraiment prendre des virages assez impressionnants dans la vie.
Déjà, ça fait plaisir de l'entendre, parce que ce n'est pas vraiment l'image que tout le monde a de ce que j'ai fait aujourd'hui, de mon métier et de tout le reste. Du coup, au moins qu'il y ait des personnes qui apprécient ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait plaisir.
Alors, à la base, vous avez une formation académique, classique, scientifique, yek ?
En fait, moi, de base, même avant ma formation, je suis issue d'une famille qui est un petit peu dans cette dérivée-là, dans le classique que vous avez dit. La plupart de ma famille, c'est des professeurs, des médecins ou des ingénieurs. Donc, j'ai été un petit peu préformatée à la base de suivre ce parcours-là. Nous, on n'avait pas l'option de faire artiste, de faire commerçant, de faire autre chose. Donc, c'était vraiment que les parcours académiques classiques. Et du coup, j'ai suivi moi-même ce parcours-là. Donc, j'ai fait l'ingénierie. Donc, je suis ingénieure d'État en réseau génie. Ingénieure d'État en génie réseau télécom. Du coup, j'ai travaillé ensuite sur ce domaine-là. Mais voilà.
Mais aujourd'hui. Alors, Yousra, aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle dans notre culture, dans notre environnement, Gefa.
Effectivement.
C'est ça.
Et fière de l'être.
Alors, est-ce que vous auriez aimé que ça porte un autre nom?
Non, pas du tout.
Non, parce que quand on dit Gefa, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stéréotypes. Voilà.
Alors franchement, avant de le faire, moi-même, j'avais cette idée-là. En fait, c'est une idée que t'as la plupart de la société. Ouais. C'est qu'une GAFA, c'est une personne pas forcément bien vue. Donc, c'est généralement, des personnes mettent l'île, comme on dit.
Ouais.
Donc, on a cette image-là. On a cette image d'une femme assez autoritaire, une femme qui a tellement vécu des injustices qu'aujourd'hui, elle est elle-même injuste.
Ouais.
Une femme qui, pour survivre dans ce métier, elle a besoin de catharsis, comme on dit.
Oui.
Donc, du coup, voilà, c'est ça que l'image que j'avais moi-même, l'image qu'a tout le monde et l'image qu'avait ma famille quand je leur ai annoncé que ce que je voulais faire. Mais après avoir essayé, plusieurs années quand même d'expérience là-dessus, franchement, on n'est pas du tout traité comme ça. Ça n'a rien à voir avec les stéréotypes reçus. On est traité même comme des femmes d'affaires. On est traité avec un énorme respect quand on travaille. D'ailleurs, en fait, dans le domaine, les professionnels du domaine ne nous appellent pas Nikara, ils nous appellent Mel.
D'accord. Alors, Bléti, petit à petit, de l'ingénieur d'État à Negafa, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Alors j'ai obtenu mon diplôme. J'ai travaillé d'abord au Maroc pendant 3 ans dans des multinationales françaises. Ensuite, entre-temps, je me suis mariée. Mon mari, il est du domaine aussi. Et donc ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir en France.
Okay.
Et c'est au moment de mon mariage où j'ai découvert un petit peu le domaine de Nikafa et de tout ce qui est autour. Moi, quand j'étais toute petite, un petit peu, j'avais l'envie de travailler dans tout ce qui est beauté. Mais il y avait plutôt l'idée de faire un centre de beauté. C'était ça un petit peu ce que je me disais. Mais j'ai eu quand même une famille qui n'aide pas là-dessus. Parce que moi, je me rappelle très, très bien d'une parole que je n'oublierai jamais. C'est Mima Al-Rahma qui avait dit « Al-Khiri Yamna Bintnara Tuli Coiffeur ». Donc,
ouais,
c'était un petit peu
ouais,
ça,
ouais.
Que l'éducation que j'ai reçue. C'est qu'il était presque inacceptable de faire quelque chose comme ça. Donc, du coup, voilà. Donc, j'avais cette idée qui était un petit peu juste un petit rêve de petite fille. Donc, ça a été dissipé avec le temps. Et quand j'ai commencé à travailler... Et je me suis mariée. C'est là où j'ai découvert le domaine de beauté, mais autrement, la mise en beauté de Nikafa. Et j'ai commencé un petit peu avec les robes de mariée. Donc là, déjà quand j'étais au Maroc...
Alors, pardon, quand vous êtes partie en... Pardon.
Ah, pardon, moi je me parle trop vite.
Oui, c'est ça. Un peu quand même, c'est vrai.
J'ai essayé de ralentir la cadence.
Quand vous êtes partie en France, vous n'avez pas pensé à bosser dans ce que vous connaissiez? Parce qu'en fait, là, vous êtes en train de me brûler des étapes. Moi, j'ai besoin de bien comprendre ce qui s'est passé.
D'accord. Okay. Bah, je vais un petit peu remettre tout en ordre. En fait, j'ai obtenu mon diplôme en 2015. J'ai travaillé déjà pendant 3 ans au Maroc, jusqu'en 2018. Et pendant ces 3 ans-là, je me suis mariée et j'ai découvert le domaine durant cette période-là.
OK.
Mais je n'avais pas la possibilité, comme je vous ai dit, de le faire pleinement et d'abandonner mon travail, de faire ça à 20 ans. Donc, ce que j'avais fait, c'était en 2016-2017, j'avais commencé un petit peu à me procurer des robes de mariée.
Mm-hmm.
Donc, je faisais la location de robes de mariée, déjà à cette époque-là.
Mais c'était en cachette. Les parents, la famille était au courant ou pas?
Voilà, non.
Personne n'était au courant.
Je faisais que sur Instagram, Facebook, je faisais que en ligne sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas de boutique ni quoi que ce soit, je n'avais pas de local. C'était juste, on va dire, une activité parallèle à mon travail.
Mais votre mari était au courant, lui ?
Non, mon mari m'a forcément toujours encouragée. Franchement, ouais. Mon mari, c'est grâce à lui que je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc, je n'aurais pas pu faire ça. Donc voilà, c'était ça. Ça, c'était en 2016-2017. Ensuite, je suis partie en France en 2018. J'ai eu l'opportunité de travailler dans mon domaine. En fait, c'était une multinationale, c'est le plus grand opérateur français chez qui j'ai travaillé. Et c'est grâce à cet opérateur-là que je suis partie. Donc, je suis partie pour travailler en France. Donc, j'y ai travaillé pendant de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait 6 ans, parce que je viens juste de démissionner récemment. Donc, j'ai travaillé pendant 6 ans en France. J'ai vécu le Covid en France. Et c'est en fait au moment du Covid où j'ai eu le déclic de changer carrément de vie, de changer carrément de métier et de faire... Parce que franchement, en France, quand j'étais chez cette boîte-là, j'avais le luxe de l'horaire, j'avais le luxe des avantages sociaux, j'avais le luxe du salaire, j'avais tout ce dont on peut rêver dans un travail, à part l'épanouissement personnel, à part le plaisir de faire ce qu'on aime. C'est ça qui me manquait en fait. Et donc durant le Covid, c'est au moment où j'étais enceinte, donc c'est 2 événements qui m'ont fait changer un petit peu d'idée. C'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est bon, là il est temps de faire ce que j'aime faire et d'affronter un petit peu la famille, d'affronter l'image qu'on peut avoir sur ce que je veux faire et de le faire pleinement. Et là, c'était pas seulement que les robes de mariée, je voulais vraiment faire le bili et tengeft à la traditionnelle, à l'arc-en-ciel.
Le vrai tengeft. Alors Yousra, quand vous dites j'avais le luxe des horaires de travail, le luxe du salaire, le luxe des avantages sociaux, celui du poste, etc. Mais il me manquait l'épanouissement personnel. Comment on se rend compte que c'est cet élément-là qui manque? Parce que certains sont pris dans le quotidien de la vie. On n'est pas en train de dire aux gens, remettez tout en question et démissionnez. Peut-être que vous n'êtes pas heureux, pas du tout. Mais j'essaie de comprendre en fait comment une personne qui a, entre guillemets, tout professionnellement peut se dire, ben, finalement, c'est pas ce qui me convient. Parce que à vous entendre, vous en parler, ça se voit que vous étiez bien dans cette boîte. Vous étiez heureuse en fait.
Oui, je le nie pas, j'étais heureuse. J'étais avec une équipe bienveillante. J'étais la seule fille parmi 12 garçons, que des experts informatiques, et ils étaient super, vraiment super bien avec moi. J'étais la chouchoutée en fait dans l'équipe. J'avais un responsable d'équipe qui est super gentil, super compréhensif. J'avais tout en fait, j'avais la totale.
C'est ça.
Mais... ce n'est pas que je suis là ou là je suis ou autre chose. C'est juste que en fait, quand on le sent. C'est quand je me réveille le matin pour aller au travail, je suis heureuse d'aller où je vais parce que je sais que je suis bien, je vais passer une bonne journée, mais je ne suis pas heureuse de faire ce que je fais. En fait, je m'ennuie à faire ce que je fais. Je leur disais tout le temps, en fait, parce que moi, en fait, mes collègues, ils ne voulaient pas que je parte. Ils me disaient, mais franchement, tu es bien, tu es une très bonne experte, les clients, ils t'adorent, tout se passe bien, etc. Pourquoi tu veux partir? Je leur disais, moi, franchement, ce que je fais aujourd'hui, je le fais uniquement parce que c'est un bon gagne-pain. Vous voyez comme ça, c'est un bon gagne-pain. Ça ne me rend pas heureuse. Je n'ai pas envie de passer ma journée à regarder un PC, à taper sur le clavier. Je trouvais ça trop ennuyeux. Je trouvais ça me tuait, en fait. Je sentais que j'avais vieillissé.
Ouais. Alors, justement, le courage de laisser le confort, cette zone de confort qui semble être bien, une équipe adorable, un salaire, un confort, etc. Le courage de tout arrêter. Je ne pense pas que ce soit sur un coup de tête, parce que vous l'avez dit, vous avez eu plusieurs étapes, vous avez travaillé plusieurs choses en parallèle. Est-ce que c'est important de se préparer avant de quitter ?
Oui, Moi, je pense que oui, parce que ça m'a aidé de ne pas avoir de choc de la transition. Mmh. Bon, après, moi, je suis quelqu'un de très adaptable. J'ai facilement, je change facilement de situation sans problème. Parce que, d'ailleurs, quand je suis partie du Maroc vers la France, tout le monde me disait, mais t'as ta maison ici. J'avais à un moment, on l'a déjà investi, j'avais acheté une maison. T'as ton travail, etc. Mais pourquoi tu veux tout quitter pour aller en France et recommencer à zéro? Et je leur disais, mais de toute façon, si je pars en France et que ça me plaît pas, bah, je peux toujours revenir. Mon pays va pas fermer de portes quand même.
C'est ça.
Donc, j'ai pas peur de tenter la chose. Si ça marche pas, c'est bien. Si ça marche pas, bah, je fais retour arrière. On regrette jamais à n'avoir fait quelque chose qui n'a pas réussi, mais on regrette de ne pas l'avoir fait. Donc, moi, j'ai toujours cette optique-là. Après, de bien se préparer, donc ça m'a aidé sur deux côtés. La préparation psychologique, donc j'ai eu déjà la période de Covid où c'était un peu calme, tout s'est arrêté. Donc moi, à ce moment-là, c'est moi là, je les ai passés à chercher un petit peu sur Internet, à me renseigner, à construire l'idée que je voulais déjà avant de me lancer dessus. Et la préparation aussi, déjà en fait, il y a eu un autre événement déclic, c'est que j'ai eu mon enfant en 2020. Et en fait, le fait d'être maman, ça aussi, vraiment, ça change. Je ne me voyais pas passer 9 heures au bureau, 8 heures. Bon, en France, c'est que 7 heures, mais bon, on exagère.
Allez, on va dire avec les transports, ça fait 9 heures.
Voilà, pour donner l'image. Parce qu'au Maroc, je travaillais 9 heures, c'est pour ça que j'ai dit 9 heures. Au Maroc, je travaillais 9 heures, en France, c'était que 7 heures. Donc, je ne me voyais pas déjà passer toutes ces heures-là loin de mon enfant, dans un bureau, ne pas avoir la possibilité d'être là pour lui quand il en a besoin, d'avoir que 3 mois de maternité. Ça, en fait, même si j'avais un très bon travail...
C'est les contraintes,
travail,
en fait.
Les contraintes, du
c'est
coup,
les
voilà.
C'est les contraintes, absolument, contraintes, je comprends.
Exactement. Je voulais, en fait, la liberté d'être mon propre patron, la liberté d'avoir la disponibilité quand je veux, où je veux. D'ailleurs, par exemple, là, notre interview aujourd'hui, je vous ai dit, bah, je peux répondre quand je veux. En fait, ça, c'est des plaisirs que j'apprécie aujourd'hui, au jour au jour, de pouvoir répondre au téléphone quand je veux, de pouvoir aller où je veux, quand je veux. Ça, c'est un luxe. Là, je suis allée trop loin, donc j'ai grillé les étapes. Mais voilà, c'est pour vous dire, en fait, c'est ces choses-là qui m'ont un petit peu encouragée à me lancer dans l'entrepreneuriat.
Mais en même temps,
Alors,
je vais être honnête avec vous, Youssala, toutes ces choses-là titillent beaucoup de personnes. Cette liberté, justement, cette indépendance de son temps, cette liberté de son temps, etc., elle appâte énormément de personnes. Maintenant, après, on se dit, ok, si je ne suis pas en fait dans l'entreprise, ben forcément je dois avoir des clients. Je suis aussi tributaire de mes clients. Ça devient en quelque sorte mes boss. C'est eux qui contrôlent un petit peu mon temps. C'est eux qui contrôlent. Ça, c'est quand on choisit.
Effectivement. Ouais. Oui. Ben en fait, justement, là j'ai parlé du bon côté de la chose, mais après il y a aussi un mauvais côté. On va pas dire mauvais, mais contraintes.
Ouais.
Voilà, d'autres contraintes différentes. Comme vous avez dit, en fait, là, c'est aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas en fait l'image de genre je ne travaille pas toute la journée, je suis juste le boss là. Non, en fait, au contraire, je travaille même plus qu'avant. Je travaille énormément d'heures, je travaille jusqu'à n'importe quelle heure. Avant, au moins, quand j'étais au bureau, à 5 heures, je prenais mes affaires et je rentrais chez moi. Ça, c'est derrière parce que c'est bon, mes heures sont finies. Aujourd'hui, non, je travaille jusqu'à minuit, jusqu'à 4 heures du matin. Là, même, je ne parle même pas quand je suis en déplacement de mariage. Je parle juste pour les préparatifs que je me fais. Dans mes locaux, les préparatifs par rapport au, par exemple, là, je vous donne un petit exemple. Là, dans 3 jours, on va faire une gaffe pour les petits.
Ouais.
Pour les Bechelins. Moi, ce matin, avant notre appel, j'étais déjà en train de faire le tour j'ai commencé à 8h du matin, en train de faire le tour pour chercher des chapiteaux à mettre en place, pour préparer un petit peu etc. Donc, c'est énormément de travail. On travaille des heures de fou. Il y a aussi le stress, il y a aussi l'instabilité financière. Il faut garder en tête parce que quand on est au salariat, au moins on sait à la fin du mois qu'on a un salaire fixe. Par contre, quand on est en entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. On ne peut pas prévoir exactement ce qu'on va toucher le mois prochain. Ça peut être mieux qu'avant, ça peut être moins. Donc il y a aussi cette instabilité qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi le stress. Est-ce que quand on reçoit un client, c'est un petit peu dans une démarche commerciale. Donc est-ce qu'on va le gagner, est-ce qu'on ne va pas le gagner, etc. Donc c'est Là, en fait, on a notre sort en main, en quelque sorte.
Absolument.
Ce n'est pas vraiment que du positif.
C'est
il y a
ça.
Aussi que du négatif. Il y a aussi du négatif.
Ouais.
On peut perdre des clients. On peut se lancer dans une démarche qui n'est pas vraiment rentable. Donc il y a carrément le bon et le mauvais de la chose. Mais, bon.
Alors, ce monde de Ten Gift, justement. Ce monde de Ten Gift, les codes d'ILO, le fonctionnement, en fait, c'est tout un monde. Comment vous avez réussi à l'intégrer, à le pénétrer, à savoir comment ça fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de traditions aussi. C'est un business, mais c'est aussi de la tradition. Donc, souvent, on entend dire que les Ngafat, c'est de mère en fille, c'est de famille. Et là, on a une jeune femme, ingénieure d'État, qui arrive d'une famille où ils sont tous, comme vous l'avez dit, sont tous médecins, professeurs, etc. Et elle décide de devenir Ngafat. Comment, à ce moment-là, vous vous intégrez ce monde? Comment vous faites votre place?
Il m'a fallu un an avant de pouvoir vraiment avoir une place. Un an pour pouvoir un petit peu découvrir, comme vous avez dit, les traditions. Parce que, en fait, en tant que cliente ou en tant que prestataire du mariage, c'est pas la même chose. Donc, en tant que prestataire du mariage, il faudrait un petit peu connaître les détails. Moi, quand je reçois une cliente, dans la majorité des cas, c'est elle qui me demande qu'est-ce que je dois faire. Donc, il faut un petit peu connaître les petits détails de la chose pour pouvoir conseiller ses clients et pour pouvoir tenir une prestation tawil, comme on dit, comme il se doit. Du coup, il m'a fallu un an et pour le faire, j'ai dû m'intégrer avec Fanat, les dames qui travaillent dans les gafettes. Donc, il y a les qui sont là, il y a les qui sont là, donc pas les entrepreneuses ou les mêlmet, comme on dit le terme, les biliens, on dit mêlma, il y a les gafettes, il y a les chi, ou Fanat, il y a les qui sont là. Donc, il y a les Fanat, ou les imprégnés de marron, ou les calmes de marron.
Vous avez passé des stages, on va dire, avec elles.
Effectivement, voilà.
C'est ce qu'on appellerait passer un stage dans le jargon classique.
En fait, exactement. En fait, j'étais stagiaire patron en même temps parce que moi, je l'ai payé.
D'accord.
Je l'ai payé pour me faire la prestation, mais j'apprenais d'elle.
D'accord. Ah, ok, vous aviez commencé déjà les prestations.
Au départ, c'était plus des shootings. Franchement, c'était des shootings, des modèles que je ramenais pour faire la faire habiller, etc., pour apprendre un petit peu le métier. Et ensuite, j'ai commencé les prestations très rapidement. Franchement, ça a été très rapide.
Mais pourquoi une gaffe en particulier? Pourquoi pas un spa? Pourquoi pas un salon de beauté? Pourquoi pas une onglerie? Pourquoi une gaffe?
Pour plusieurs raisons. La première raison, je vais vous dire, c'est vraiment le bonheur de participer dans le bonheur des autres. Donc moi, je leur dis toujours, j'ai la grande chance de travailler que pour ça.
Ouais.
Il y a d'autres métiers qui sont très nobles comme la médecine, etc. Mais en fait, vous travaillez dans le malheur des choses en quelque sorte. Vous essayez de les soulager, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est quelque chose qui est émouvant. Moi, j'ai la chance de travailler dans quelque chose qui est épanouissant, que du bonheur, que le farah qu'on trouve avec des familles. En fait, on vit leur bonheur en quelque sorte. Ça, c'est vraiment une satisfaction énorme de pouvoir participer dans le bonheur. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est un petit peu le monde de la beauté, mais différemment, parce que Anna, je n'ai pas vraiment le don de faire le make-up, etc. Donc, j'ai eu le don de faire des tenues bildi, parce qu'Anna, je fais mes propres tenues moi-même. Donc, je me suis transformée en styliste malgré moi, même si je n'ai pas eu de formation de styliste, mais je me suis fait auto-former pour pouvoir faire mes tenues moi-même. Donc, il y a un côté créatif là-dessus. Le troisième bon avantage, c'est le respect qu'on a quand on travaille. Comme je vous ai dit, ça, c'est ce que j'ai découvert après. Je ne le savais pas avant, forcément, mais j'ai découvert après. Franchement, je suis un vraiment comme une reine dans son territoire. Avec un énorme respect. Tous les autres prestataires qui ont qu'on ne connaît pas si on le vit pas. C'est énorme. C'est la satisfaction que je ressens quand je travaille un mariage. Mais avec le poste que j'ai, elle est mille fois mieux que la satisfaction d'avoir le statut expert ingénieur. Rien à voir. Rien
incroyable.
À voir. Franchement, c'est énorme.
Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la tradition dedans, parce que c'est aussi, en fait, c'est des codes culturels.
Effectivement, c'est des codes culturels. Alors que, en fait, dans le métier, les kafats, elles se sont forgées une image de respect énorme. Et ça a été transmis de génération en génération. Ce qui fait aujourd'hui, nous, dès qu'on obtient le statut de Mukafa, on hérite de ce respect-là.
C'est ça. Mais alors, est-ce qu'on a une carte de Mukafa?
Vous parlez,
est-ce que c'est une carte professionnelle?
Oui, oui, oui. Oui, effectivement, le métier andou l'anime dialo, donc ouais, andou le بطاقه المهنيه, etc. Donc il y a des trucs.
Il y a des trucs, il y a une structure, c'est un métier. D'accord, ok. Alors, rapidement, la famille, justement, la grande famille, les parents, ils ont réagi comment au départ et aujourd'hui, quelques années après, comment ça se passe ?
Ma petite famille, mon père, il m'a encouragée parce que pour lui un petit peu, il avait besoin que je puisse avoir un statut social respectable avant de faire ce que je veux. Donc dès que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, pour lui, c'est bon, je pouvais faire ce que je voulais. Parce que pour lui, être NUCAFA seul n'est pas pareil que d'être ingénieur NUCAFA. Donc voilà, donc il m'a encouragé, j'ai pas eu de soucis. Ma maman, moi, par contre, elle a pas du tout accepté, elle voulait pas que je démissionne de mon travail. Elle m'a dit, au moins, si tu veux faire ce que tu veux, il n'y a pas de soucis, mais tu gardes ton travail à côté. Moi, à un moment donné, dès que j'ai commencé un petit peu à travailler, à avoir des clients, etc., c'était plus possible de garder les deux. J'ai pu les garder pendant un an, mais je pouvais pas les garder plus longtemps. Je devais me consacrer à mon travail d'aujourd'hui, qui est une GAFA. Donc, elle n'a pas accepté, jusqu'à aujourd'hui, elle n'accepte pas. Elle accepte que je sois une GAFA, mais elle veut que je garde ingénieur en parallèle.
C'est ça.
Donc voilà, elle n'accepte pas, mais bon, elle fait avec.
Donc là, des fois...
Sur la grande échelle, ouais. Sur la grande famille, moi, ce qui me fait rire un petit peu, c'est que, je ne sais pas si elles vont entendre le podcast, mais bon, j'ai l'exemple de mes cousines, qui sont médecins, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mes cousines, quand elles me présentent à leurs copines, aux autres médecins, pharmaciens, etc., dans leur club de médecins, pharmaciens et tout ça, elles ne me présentent pas en tant que GAFA, elles me présentent en tant qu'ingénieur GAFA. En fait, elles ont toujours besoin de rajouter le petit statut d'ingénieur pour pouvoir présenter leur cousine GAFA. C'est fierté. Franchement, ça me fait rire, mais c'est la vérité.
Ouais.
Quand on dit « ma cousine est l'ingénieur, mais elle est entrepreneuse, elle a fait un projet de GAFA », c'est pas pareil de dire « ma cousine elle est une GAFA ». On a toujours ce stéréotype. Dans la société, en fait, on GAFA bouhida ma kamarda ou chbiha.
Et votre mari, il dit ma femme est mon, je vous présente mon épouse, elle est une GAFA.
Oui, mon mari, oui, il est fier de moi en tant qu'une GAFA, il m'encourage. Il n'a pas de problème par rapport aux horaires de travail, par rapport au fait que, par exemple, là aujourd'hui, ma boutique, la boutique de GAFA, mon showroom, il ne peut pas fermer à 17h, 18h, sachant que lui, il est dans le salariat. Donc lui, il finit. Et en plus, il est en télétravail. Donc, ouais. Il finit très tôt le travail. Alors que moi, je peux travailler jusqu'à 20h, 21h, 22h pour des journées normales. Quand je suis en déplacement au mariage, là, c'est jusqu'à 5h, 6h du matin. Mais franchement, j'ai eu le soutien de mon mari qui fait qu'aujourd'hui, je ne sens pas la pression à la maison, bon, avec ma petite famille. Et il m'aide aussi pour mes enfants parce que j'ai deux enfants aujourd'hui. Donc, oui, mon mari, c'est le plus grand soutien que j'ai aujourd'hui qui fait que je peux faire ce que je fais aujourd'hui.
Ben c'est super, Yossala. Mais c'est un métier qui est quand même dur, hein, parce que justement, veiller la nuit, quand on a des enfants, enfin même quand on n'a pas d'enfants, c'est évident de ne pas de se déplacer de ville en ville, de travailler la nuit. C'est des horaires complètement différents.
Aujourd'hui, avec mes enfants, avec le plus grand, lui, il est un peu plus autonome. Avec le plus petit, j'ai toujours la petite contrainte d'avoir à l'allaiter, de faire des allers-retours la nuit quand il se réveille, parce que je l'allaite, etc., surtout quand il est tout petit. Mais comme je vous ai dit...
Vous pouvez être dans une... Vous pouvez être dans une cérémonie de mariage, rentrer à la maison, allaiter et repartir.
Oui, ou bien mon mari, en fait, il me ramène le bébé pour que je l'allaite.
Oh là là.
Dans la salle de mariée, puis il le ramène encore à la maison. Comme je vous l'ai dit, en fait, sans mon mari, je n'aurais pas pu réussir.
C'est ça.
Il contribue énormément dans notre
chouchou. Barakallah alaykoum, Yousra. Vraiment.
Barakallah
alaykoum. Yousra Qazwini, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.